pour on est à publication chrétienne dans les derniers préparatifs pour la distribution des boîtes, les librairies essentielles MacArthur. Les boîtes sont rendues en Allemagne, avec qui on travaille pour une mission qui va en Afrique. Écoutez, il y a 12 ou 15 pays, je ne me rappelle plus combien de pays là, que les boîtes vont aller, incluant Haïti aussi. Et bien sûr, hein, l'ennemi est actif là-dedans. Là. Ça ne fait pas son affaire qu'on ait ce ministère-là. Donc, priez pour ça. Je vous ai-tu raconté qu'est-ce qui est arrivé au Cameroun avec le camion? Non? L'an passé, et je vous dis ça très humblement, dans le sens que vous allez voir que je suis pas un modèle, là, tu sais, j'étais pas fier de moi, mais en tout cas, il y a une distribution qui était prévue, mettons, on va dire le 15 août, je me rappelle pas de la date, c'est un samedi, et ça faisait un an, là, tu sais, qu'on planifiait ça, qu'on travaille ça, faire imprimer l'expédition, et... moi, je n'ai pas été. Guy était là, Guy, qui était ici la semaine passée. Et le vendredi, dans la nuit, je regarde, entre vendredi et samedi, évidemment, eux, ils ont 6 heures d'avance, je regarde mes textos et Guy me dit, le camion est en panne. Là, je me suis dit, et c'est là que je ne suis pas fier de moi, je me suis dit, pays de bananes. T'sais, ils n'ont rien que ça à faire, là, s'occuper d'avoir un camion pour amener ça à la bonne place, puis ça ne marche pas. Et que, parce qu'il y a des gens qui font des centaines, des milliers de kilomètres. Il y a des personnes qui ont fait 2000 kilomètres pour aller chercher ces boîtes-là. Et le camion n'est pas là. Finalement, ça a eu lieu le dimanche. Et pas longtemps après, il y a Doulos à Québec. Et à Doulos, on a donné les 100 premières boîtes de la librairie essentielle MacArthur. Et c'est un vendredi, et le vendredi matin, à Sainte-Foy, on était à Sainte-Foy, il y a une petite formation, et Pascal, qui est responsable, m'envoie un texto, « Le camion est en panne. » Là, je me suis dit, « Pays de banane, ici aussi. » Mais tout ça pour dire que l'ennemi essaie de mettre les bâtons dans les roues. Et il faut prier, parce qu'il y a toutes sortes, surtout dans certains pays, là, il y a toutes sortes de contraintes au niveau des douanes, au niveau du transport. Donc prions pour que ces boîtes-là arrivent à destination. Ça, c'était mes petites annonces. Ça n'a rien à voir avec 2 Corinthiens, mais c'est difficile pour moi de ne pas en parler. Bon, 2 Corinthiens 6, verset 14, à aller jusqu'à la fin du chapitre 7. Et j'ai intitulé « Choisir selon Dieu ». Et la fin du chapitre 6, verset 14 à 18, me semble être une parenthèse. Une parenthèse dans le discours de Paul qui a commencé au chapitre 6 et qui va continuer au chapitre 7. Il dit, et voilà pourquoi je pense que c'est une parenthèse, au verset 11 du chapitre 6, il dit, « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi vos cœurs. » Et au verset 2 du chapitre 7, il revient, « Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait de tort à personne. » Fait que vous voyez que ce qu'il y a entre le verset 12 et le verset 2 du chapitre 7, c'est comme une parenthèse. Et Paul parle de son apostolat dans 2 Corinthiens, qui est l'épître de la réconciliation, parle de son apostolat qui a été contesté, qui a été éprouvé. Et c'est comme si cette épreuve-là, ou ces critiques-là, viennent de l'extérieur de l'Église. On dirait que l'Église à Corinthe a été influencée par l'extérieur. Et dans les versets 14 à 7, verset 1, Paul va parler de se séparer de l'extérieur, que les croyants sont différents des incroyants. Donc, on va lire les versets 14 jusqu'à 7, verset 1. Choisir selon Dieu la décision de faire un choix, de vivre comme des personnes distinctes. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Et l'iniquité, pardon. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, un appel à se séparer, à faire un choix. Et ne vous mettez pas avec les infidèles ou ceux qui n'ont pas la foi sous un joug étranger. C'est probablement une des sections, sinon la section la plus importante sur le thème de la séparation. La séparation du croyant d'avec les incroyants. Et cette section s'applique certainement au mariage. Je suis conscient que ce matin, il n'y a pas beaucoup d'entre vous, peut-être, qui sont en train de penser à ça. Là. Je vais-tu me marier? Mais on ne peut pas laisser, je ne sais pas qui va rentrer dans l'Église ici à Sainte-Marie dans une semaine, dans un mois, dans deux mois, il arrive des jeunes. Et il faut qu'à partir du moment que quelqu'un se dit converti, quelqu'un se dit un croyant, il ne peut pas d'aucune façon envisager une relation avec un incroyant ou une incroyante. Hein? Il faut que ce soit clair dans la tête des croyants que des fois, le premier coup d'œil est inévitable. Hein? On voit une belle madame, puis là, pouf! Mais vous comprenez, on rencontre quelqu'un et, oh là, on peut presque dire on tombe en amour ou on a un kick, ou que ce soit un gars ou une fille. Mais si cette personne-là est un incroyant ou une incroyante, il faut mettre un terme tout de suite à ça. Ça ne peut pas commencer, à moins de désobéir à Dieu. Et là, c'est ça que je vous disais tantôt, la personne qui fait ça, c'est très bien qu'elle désobéit à Dieu. C'est écrit, c'est très clair. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les incroyants. On ne peut pas commencer ça. Et on en a eu chez nous, à l'Église, des gens qui ont dit, évidemment, elle est super intéressée par l'Évangile. Fait que, tu sais, c'est probablement le Seigneur qui permet. Ben non, c'est pas le Seigneur qui permet ça. Si elle est intéressée par l'Évangile, annonce l'Évangile, retire-toi de sa vie sentimentale, annonce l'Évangile, et si c'est le plan de Dieu, cette personne-là va se convertir, puis on verra par la suite. Mais on en a vu des gens qui se sont fait prendre, quasiment, on peut dire, et l'intérêt pour l'Évangile a fini par diminuer, s'est éteint, et ça a été une catastrophe dans le couple. Parce que, vous savez, quand on est croyant, on s'en va dans une direction, et quand on est incroyant, on s'en va dans une autre direction. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important que nos jeunes comprennent quand ils veulent commencer une relation, parce qu'on ne commence pas, tu sais, sortir avec quelqu'un, avec un gars ou une fille, on commence pas ça juste pour, parce qu'on n'a rien à faire le samedi, là. On fait ça dans l'objectif de se marier, point à la ligne, il n'y a pas d'autre raison. Hein? Ce n'est pas pour agrémenter nos fins de semaine, c'est dans l'objectif de se marier. Maintenant, dans le cas où un chrétien est déjà marié à une personne inconvertie, quelqu'un qui se convertit, qui rentre ici, quelqu'un qui est marié, ce verset-là, d'aucune façon, justifie la séparation ou le divorce. On ne peut pas prendre ce verset-là et dire « Ah, je vais me divorcer, me sépare parce que ma femme n'est pas mariée ou mon mari n'est pas marié, mais elle n'est pas convertie ou mon mari n'est pas converti. » Ça ne justifie pas ça. Quelqu'un qui est marié honore le mariage. Mais l'idée, c'est de garder la séparation. Et il y a une image de l'Ancien Testament, Lévitique 19 et au verset 19. On va lire ce verset-là. Lévitique 19, verset 19. Tu n'accoupleras point les bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Tu ne porteras pas de vêtements tissés de deux espèces, etc. Dieu donne aux Israélites un moyen de vivre, une image vivante de la séparation dans tous les aspects de leur vie. Pas deux sortes de bestiaux ensemble, pas deux sortes de semences ensemble, le tissu, soit de laine, soit de lin, mais pas de laine et de lin. Les tissus n'étaient pas mélangés. On ne se mélange pas. Dieu a dit explicitement aux Israélites d'éviter les nations étrangères. Hein, de ne pas s'accoupler avec les nations étrangères. Et c'est arrivé, et on connaît l'histoire, on sait ce que ça a fait. Mais Dieu a donné des instructions claires à son peuple pour qu'il se sépare. Et on doit réaliser, tantôt, Mario a dit qu'il va y avoir un sondage la semaine prochaine pour les hot dogs. Ici, là, on n'est pas dans un sondage d'opinion. Dieu n'est pas en train de dire... qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, levez vos mains. Pas ça, là. Dieu dit, c'est ça. Tu ne te mettras pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ce n'est pas une proposition. Dieu ne propose pas quelque chose. Dieu impose quelque chose. Et quand Dieu impose, ce n'est pas parce qu'il veut nous écraser, c'est parce que c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon pour ses enfants. Et bien souvent, on ne le réalise pas, mais Dieu le réalise. Et on n'a pas besoin de dire à Dieu, « Oh, un instant, ça va prendre des explications, là, parce que je ne comprends pas tout ça. Là. Donne-moi deux, trois points, là, donne-moi quelques arguments là, pour que j'accepte ce que tu dis. » Pas besoin de ça, parce que c'est Dieu. Dieu nous enseigne et on lui fait confiance. Et le verset est suivi par quatre contrastes assez importants. Quel rapport ou quelle communion, quel point commun y a-t-il
entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun? Quelle association entre la lumière et les ténèbres? Quel accord, encore une fois, symphonie, ça, c'est le mot symphonie qui est employé ici. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est un nom pour le démon. Quelle part, quelle portion dans une entité, quelle portion il y a entre le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vous voyez, il utilise différentes images pour montrer aux Corinthiens, mêlez-vous pas avec les étrangers. Mêlez-vous pas dans le sens nos croyances, notre mentalité. Et vous savez, à Corinthe, on a lu un Corinthien, on sait que ce n'était pas la ville la plus, comment je dirais ça, là, convenable. D'ailleurs, il y avait une expression dans le monde grec, quand on parlait des gens qui étaient dans une extrême déchéance, on disait « ils corinthianisaient ». Pas à Corinthe, là. Ailleurs, dans le monde grec, on disait ça « ils corinthianisent », parce que ça exprimait l'état de la ville. Donc, je ne dis pas que 100% des habitants étaient corrompus, méchants et pervers, mais c'est une réputation que la ville de Corinthe avait, et on peut comprendre que Paul s'adresse aux Corinthiens en disant « séparez-vous d'avec le monde ». Et vous savez quoi? Sainte Marie, je ne le comparerai pas à Corinthe, ni Sainte-Foy, mais le monde, c'est le monde. Et le prince de ce monde, il n'a pas changé non plus, là. C'est le même à Sainte-Marie qu'il y avait à Corinthe, qu'il y a à Sainte-Foy, puis à Saint-Jean. Là. Le prince de ce monde, c'est le prince de ce monde, et on ne peut pas faire confiance. Il faut garder nos distances psychologiques, morales, avec le monde. Il faut faire attention que le monde n'entre pas dans l'Église. Et c'est subtil, vous savez. Ça ne va pas arriver, là, un gros dragon noir qui veut rentrer dans ça. Ce n'est pas comme ça que ça arrive. Satan est plus intelligent que ça, là. C'est subtil comment les erreurs, souvent les erreurs doctrinales, l'ennemi va essayer de nous rentrer ça dans la gorge. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Il n'était pas question d'amener des idoles dans le temple, quoique c'est arrivé, le peuple l'a fait, mais il n'était pas question d'amener des idoles dans le temple. C'était proscrit, c'était défendu. Et nous, en tant que temple du Saint-Esprit, parce que c'est ça qu'on est, le temple du Saint-Esprit, Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Il n'est pas question d'amener des idoles dans le temple. Il faut se séparer. Est-ce qu'on peut tracer une ligne dans nos vies où on sait que c'est là que la pensée du monde finit et où nous, qu'est-ce qu'on peut tolérer et qu'est-ce qui est intolérable? Qu'est-ce que la vie mondaine ne peut pas entrer en moi, là, certes, les aspects? Est-ce qu'on est capable de tracer ça? Si on ne fait pas ça, si on ne trace pas cette ligne claire-là dans notre tête, que tel événement, ça ne marchera pas, la journée que ça va arriver, ça arrive vite, et on va tomber, si ce n'est pas clair. Si ce n'est pas très clair, comme je vous disais tantôt, je pense à un jeune homme, à une jeune fille qui voit un inconverti à l'école, au cégep, à l'université, je ne sais pas, au travail, puis qui tombe en amour. Si ce n'est pas clair dans sa tête, ce n'est pas un inconverti. C'est un inconverti, c'est-à-dire, il faut pas que j'engage une relation. Ça va arriver. S'ils sont pas fermes, ça va arriver. « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Il faut se séparer. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est Lévitique 26 ça, où Dieu dit à Israël, explique à Israël, si tu obéis à mes lois, je vais te bénir. Et comme Mario l'a mentionné dans Deutéronome, et dans Lévitique aussi, si tu n'obéis pas, il y aura des conséquences. Et il y a eu des conséquences. Israël n'a pas obéi et il y a eu des conséquences. C'est pas allégorique, ça. C'est pas une fable. C'est quelque chose qui est réellement arrivé. C'est pour ça qu'on croit à la Bible est inspirée. Verbale, plénière, l'inspiration verbale, plénière des Écritures. Quand Dieu promet un futur à Israël, on croit que ça va littéralement arriver. Quand Dieu a promis des malédictions à Israël, c'est pas arrivé à quelqu'un d'autre, c'est arrivé à Israël et encore aujourd'hui. Donc, on fait la distinction entre Israël et l'Église. Et à partir du verset 2 du chapitre 7, Paul va, on va lire ces versets-là, et le thème de ces versets-là, c'est la tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu. C'est-à-dire une tristesse que Dieu permet dans nos vies, dans la vie de certaines personnes. Donnez-nous une place dans vos cœurs, juste là. Donnez-nous une place dans vos cœurs, quand même, là, tu sais, c'est pas rien, là. Je ne peux pas dire ça, moi, au travail, je ne peux pas dire ça à l'épicerie, je ne peux pas dire ça à mon voisin, tu sais, si je dis ça au travail, donnez-moi une place dans vos cœurs, ils vont me dire, va te faire soigner, là, tu sais, il y a de quoi il ne va pas, tu fais le pas. Mais à l'Église, donnez-moi une place dans votre cœur. Il n'y a personne à qui on peut refuser ça. Parce que cette personne-là a une place dans le cœur du Seigneur. Est-ce que moi, je peux dire, écoute, Seigneur, toi, tu juges que telle personne, tu peux l'aimer, c'est correct, mais moi, non. Non. Moi, j'ai des standards différents des tiens. J'ai entendu cette semaine, quelqu'un qui m'a raconté une histoire qui est arrivée dans une église, qui a eu des différends, et un des anciens lui a dit, « Toi, je ne te pardonnerai jamais. » Hein? Tu m'as entendu, moi, là? Tout, mais que ce soit un ancien ou n'importe qui, là, on ne peut pas dire ça. « Toi, je ne te pardonnerai jamais. » Est-ce que vous avez des souffrances plus grandes que celles que le Seigneur Jésus a eues? Ben voyons. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Paul demande aux Corinthiens, ouvrez-nous votre cœur. Et c'est la sensibilité de l'Église. On doit être sensible aux frères et aux sœurs, quelle que soit leur situation. Et je comprends qu'il y a des gens avec qui on a plus d'affinité. Je comprends ça. Mais il n'y a personne qui peut être laissé à l'écart. Personne, parce que le Seigneur les aime, parce que le Seigneur les a choisis, et même si ces gens, parfois il y a des gens qui sont physiquement diminués, on va dire ça comme ça pour qu'on se comprenne, et tu sais, on se dit, ben, je sais bien pas qu'est-ce qu'il pourrait m'apporter, là. Je l'aime bien, Jean-Claude, là, mais je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait m'apporter, tu sais, diminuer, soit mentalement ou physiquement. Ça change quoi? On va dire ça au Seigneur. Seigneur, je ne sais pas ce qu'il peut m'apporter. Fait que, tu sais, je vais le laisser de côté un peu. Puis le Seigneur va dire, ouais, tu fais bien. Moi non plus, tu ne m'en occuperas pas. Mais voyons, c'est pas ça, là. C'est au contraire. Au contraire, occupons-en nous. Ça se dit-tu, ça? Hein? Oui? OK, on comprend, c'est ça. Il faut s'en occuper parce que le Seigneur les aime. Et c'est ce que Paul leur dit. « C'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie, à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. » C'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte. Paul a écrit une lettre aux Corinthiens. Il a écrit trois lettres aux Corinthiens. La première lettre, la deuxième, qui est probablement la troisième, et une deuxième que le Saint-Esprit n'a pas jugé utile de garder. Mais il y a une lettre que Paul a écrite aux Corinthiens qui était sévère. On ne connaît pas le contenu. Et Paul dit, c'est pas pour vous condamner que j'ai écrit ça. C'est pour vous sensibiliser. C'est pour vous montrer l'erreur dans laquelle vous êtes tombé. Parce que vous êtes dans nos cœurs, à la vie, à la mort. On ne peut pas dire ça à n'importe qui, là. T'sais, comme tantôt, je vous ai dit, là, je ne peux pas demander à mon voisin ou à quelqu'un au travail d'avoir une place dans son cœur. Puis je ne dirai pas non plus, je vais être avec toi jusqu'à temps que tu meurs. Ce sera pas ça. Mais si c'est des croyants, ça vient de changer, là. Ça vient de changer parce qu'on est dans la même famille. Et parce qu'on est dans la même famille, moi, par exemple, vous ne connaissez pas tout de ma vie. Mon épouse en connaît pas mal plus. Et si je prends le temps rond sur n'importe quoi, moral ou pas, là, par amour pour moi, elle va me dire, « Hey, allô, allô, y a-tu quelqu'un au deuxième étage? T'es en train de t'en aller dans le champ, là. » Et je m'attends qu'elle va faire ça. Et si elle ne le fait pas, c'est de l'indifférence. Est-ce qu'on est indifférent avec nos frères et sœurs? Si on voit quelqu'un qui s'égare, par amour pour eux, même si ça va causer du chagrin, de la tristesse selon Dieu, même si ça va causer ça, c'est notre responsabilité de le faire. Encore une fois, ce n'est pas la personne au travail, peut-être même lui va nous encourager à continuer, et ce n'est pas la personne à l'épicerie ou notre voisin qu'on peut s'attendre d'avoir de l'aide, de la direction. C'est des gens dans l'Église. Ce n'est pas réservé aux anciens, aux diacres et aux moniteurs d'école du dimanche. C'est la responsabilité de toute l'Église d'avoir du discernement et de se reprendre quand quelqu'un s'égare. Et Paul dit, « Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes mes afflictions. » Il me semble que ça ne va pas ensemble. « Je suis rempli de joie au milieu de toutes mes afflictions. » Pas tant que ça, moi. Pas tant que ça, quand j'ai des afflictions, là. Ça ne me tente pas. Mais Paul dit, je suis comblé de joie, parce qu'il réalise que ces afflictions, que les Corinthiens lui ont fait vivre, ou ce que la façon que les Corinthiens se sont comportés, ça lui a apporté des afflictions, mais avec les nouvelles que Tite lui apporte, parce que Tite revient vers Paul, c'est 2 Corinthiens 2, verset 12. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'Évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Je ne trouvais pas Tite, puis il était malheureux, il était angoissé de ça. Et il a retrouvé Tite, il avait envoyé Tite à Corinthe. Et il a retrouvé Tite qui lui a apporté des bonnes nouvelles. Il dit, « Nous étions affligés de toute manière, lutte au-dedans, crainte au-dehors. » Mais ça, c'est encourageant pour nous. Imaginez, là, on parle de l'apôtre Paul. Si on est dans une équipe de hockey, il est probablement capitaine là, ou assistant. Là, il joue pas sur le banc. Mais Paul, Dieu a permis dans la vie de Paul, qu'il ait des souffrances, qu'il ait des afflictions, qu'il ait des luttes. Est-ce que je suis bien étonné que moi, j'en ai? Pas tellement. Si Dieu a permis ça dans la vie de Paul, certainement qu'il va permettre ça dans ma vie. Et l'objectif de Dieu, ce n'est pas de peser sur Paul en disant « Hé, mon Paul! » C'est pas ça. C'est de permettre à Paul et à Serge et à vous de vivre des choses difficiles pour mettre notre confiance en Dieu. Mettre notre confiance en Dieu. Et quand on met notre confiance en Dieu, on n'est pas malade, on est riche, on est heureux, on a une belle voiture, une belle maison. Non. Non, non, non. Ça ne veut pas dire ça. Ça peut peut-être vouloir dire que on est éprouvé, qu'on est malade, qu'on a perdu quelqu'un, que toutes sortes d'épreuves. Et est-ce qu'on est triste pour ça? Oui, on est triste, ça peut arriver, mais on fait confiance à Dieu, sachant que lui sait mieux que quiconque qu'est-ce qui est bon pour nous. Et même si je ne suis pas capable d'évaluer aujourd'hui, j'imagine Joseph dans sa prison, assis au bout de quelques années, que le panetier l'avait oublié. Hein? « Souviens-toi de moi quand tu vas être avec le Pharaon. » Et Joseph est dans la prison, puis il m'a oublié, c'est fini. J'ai pas d'espoir. Mais Dieu avait un plan pour Joseph. Et quand ça a été son temps, Dieu a enlevé Joseph de la prison et l'a établi comme tout de suite après lui, le deuxième après Pharaon. Et vous savez quoi? Dieu avait un plan pour Jean-Baptiste aussi, et Jean-Baptiste n'est jamais sorti de sa prison. Mais Dieu avait un plan pour Jean-Baptiste quand même, celui qui est appelé le plus grand des prophètes. Je saute au verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse selon Dieu, dans nos cœurs, nous rend le péché lourd, pénible, insupportable. Et ça produit la repentance. C'est ça l'objectif. C'est comme quand on met quelqu'un sous discipline à l'Église. C'est pas un party, là. C'est pas comme un baptême, là, où tout le monde est content, fête, puis un petit lunch après, là. Quand on met quelqu'un sous discipline, il n'y a pas un petit lunch après. Mais l'objectif, c'est de produire la tristesse selon Dieu en vue de la repentance. Et quand on est attristé par un péché, Quand le Saint-Esprit en nous met ça lourd dans notre cœur. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de peser, c'est de faire réaliser que tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en toi et le péché que tu tolères dans ta vie n'a pas sa place. Et il faut se repentir, virer de bord. Et c'est ça que Paul... C'est ça qui a encouragé Paul, c'est que sa lettre, la deuxième qu'on n'a pas, a produit dans le cœur des Corinthiens la tristesse selon Dieu. Et ils se sont repentis. On ne sait pas exactement, le texte n'est pas clair, et heureusement qu'il n'est pas si clair que ça, parce que s'il nous avait donné un exemple précis, on aurait pu dire, vous voyez, la tristesse selon Dieu, c'est pour ça. Non, ce n'est pas pour ça, c'est pour l'ensemble des péchés, l'éventail des péchés. Mais on ne sait pas exactement pourquoi, mais les Corinthiens ont bien réagi aux avertissements de Paul, ont bien réagi aux réprimandes de Paul, et ils se sont ouverts. Et Tite, qui a apporté la lettre, qui a resté à Corinthe un certain temps, a vu le changement, a vu ce que ça a produit dans le cœur des Corinthiens, est revenu vers Paul, a lui-même été encouragé. On le voit au verset 14. « Et si devant lui, je me suis glorifié un peu à votre sujet, Glorifier, en passant, le mot glorifier, c'est glorifier, c'est fort comme mot. C'est être fier. Être fier, ça, on pourrait traduire par être fier. On glorifie Dieu, on se glorifie pas nous-mêmes, on glorifie Dieu, mais Paul, il était fier, il était content. Et si je me suis un peu glorifié à votre sujet, en fait, Paul avait comme vendu les Corinthiens. Là, il a dit à Tite, il était fier des Corinthiens. Et je ne sais pas ce qu'il leur a dit, mais il leur a peut-être dit quelque chose comme tu ne seras pas déçu. Tu vas voir, c'est des gens qui aiment le Seigneur. Tu vas voir. Et effectivement, il n'a pas été déçu. C'est dans ce sens-là qu'il s'est glorifié. Je n'en ai point eu de confusion, mais comme nous avons toujours parlé selon la vérité et ce dont nous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est trouvé d'être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous, par l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toute chose me confier en vous. Les Corinthiens ont bien réagi aux avertissements de Paul. De Paul? Ou du Saint-Esprit? Est-ce que quand quelqu'un vient me voir pour me faire part d'un problème que j'ai, c'est Mario vient me voir et me dit quelque chose, je peux dire, t'es qui toi Mario pour venir me tanner avec ça? Mais je peux aussi considérer que Dieu me parle au travers de Mario. Et à tort ou à raison, je prends ce qui n'est pas bien, et je le sais, hein? On le sait. On le sait quand quelqu'un nous dit quelque chose. On peut essayer de se redresser et dire, moi, je suis pas comme ça. Comme le petit garçon à l'école du dimanche. Christine, elle m'a raconté ça. Puis c'était un petit gars que j'aimais beaucoup, Steve. À un moment donné, Christine a dit, on est tous pécheurs. Elle dit, dans la classe, ils sont une dizaine. Puis elle dit ça aux enfants, on est tous des pécheurs. Et lui, pas moi! Fait que quelqu'un peut nous reprendre et on dit, non, pas de même, pas moi. Mais on est comme ça. Mais soyons réceptifs à ce que Dieu nous enseigne. Dieu nous rend sensibles à certaines choses, pas dans le but de nous détruire, de nous affaiblir, de nous diminuer, mais par son Saint-Esprit de nous renforcer. Et vous savez quoi? On ne se mettra pas à briller davantage, à briller dans le noir, là, comme certaines affaires qui brillent dans le noir, mais la gloire de Dieu dans nos vies va le glorifier lui-même. Et merci Seigneur de ce que je peux te glorifier, même si personne ne le voit. Il y a une très belle fleur dans une forêt, inaccessible. Qu'est-ce que ça donne? Personne ne la voit. Dieu la voit. Et Dieu prend plaisir dans cette belle fleur-là. Si on fait quelque chose et que personne ne le voit, tant mieux. John Nelson Darby a dit, peut-être je vous l'ai déjà dit parce que j'aime ça, cette phrase-là, l'œuvre la plus près du cœur de Dieu, c'est celle qui est cachée aux yeux des hommes. Donc, soyons heureux de glorifier Dieu par notre comportement. Un peu. On va prier. Notre Dieu et Père, encore une fois, on est reconnaissant de ce que la Bible est claire. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes votre peuple. On vous appartient à jamais. Il n'y a rien qui peut nous enlever l'amour de Christ dans nos vies, la régénération, la justification devant vous. Et certainement qu'on a plein de domaines où on doit améliorer notre sainteté. Et on veut, par votre Saint-Esprit, nous aider, on veut vous demander de nous aider à être sensibles, à être réceptifs et à changer nos vies. Il y a un cantique qui dit « Donne-moi un cœur qui ressemble au tien, mon Sauveur, notre Dieu, puissiez-vous nous donner un cœur qui ressemble à celui de votre Fils. » Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen.